Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les Dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Frère Philippe, bonjour.
Nous allons continuer à nous interroger sur la foi, le début du catéchisme. Nous sommes rendus compte que parler de la foi en Dieu, ça supposait d'essayer de comprendre qui est l'homme, qu'est-ce qu'est l'homme. Je crois qu'on peut aussi dire qu'est-ce qu'est l'homme qui croit, celui qui dit « je crois ». Et cette communauté de croyants qui dit « nous croyons ». Je pense qu'il y aura quelque chose d'important à dire après sur cette distinction-là. Mais le « je crois », le « je » de l'homme, c'est important de se rendre compte que le Dieu auquel nous croyons nous renvoie à une certaine manière de considérer l'homme, les hommes que nous sommes. Nous avons un certain regard sur l'humanité à partir du Dieu auquel nous croyons. Et il me semble important aujourd'hui de nous dire que notre monde actuellement n'a pas le sentiment que croire en Dieu est quelque chose de naturel.
Oui.
Manifestement, ce serait une sorte de curiosité, alors que finalement, dans le christianisme lui-même, dans l'histoire de l'Église, mais aussi plus largement dans les religions, la capacité d'envisager Dieu, de croire en lui, est quelque chose qui est naturel, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Alors, il y a deux attitudes. Il y a une attitude qui voudrait que, pour excuser un peu nos contemporains, serait de dire que Dieu se serait retiré de la création. Il aurait lancé, si vous voulez, la grande pichenette initiale, comme dirait Voltaire, puis se serait retiré, et puis il attendrait la suite des choses du haut de son ciel. Et puis une autre attitude qui est une attitude de complètement éliminer même l'hypothèse de Dieu. Dieu devenant à ce moment-là comme purement un mythe des temps passés, et on passerait tout simplement de cette période, comme disait Auguste Comte, de l'époque de religieux, mythique, à l'époque plus métaphysique, et enfin l'époque scientifique, où on pourrait tout déterminer par des équations. Dieu, finalement, ce serait le résultat d'un bouche-trou de notre ignorance. Et à partir du moment où nous augmentons notre capacité de savoir, nous n'avons plus besoin de Dieu. Et le catéchisme, au numéro 29, dit bien quelles sont les origines de cette absence d'orientation vers Dieu. Il peut y avoir la révolte contre le mal dans le monde, et c'est vrai qu'on est de mieux en mieux informé. Avant, vous aviez Jean Giscan ou Tamerlan qui déferlaient des hautes steppes de l'Asie vers l'Asie mineure et vers la Méditerranée. On l'apprenait souvent 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard. L'événement était dissipé, dilué dans le temps. Maintenant, il y a une petite bombe à Tokyo ou au fin fond du Canada, et on la prend immédiatement, si vous voulez. Donc l'angoisse par rapport au mal a beaucoup augmenté. L'ignorance ou l'indifférence religieuse, c'est vrai que l'aspect pluriel, je dirais, de nos sociétés, ont fait que petit à petit, les gouvernants, pour mieux diriger ces sociétés plurielles, ont favorisé l'indifférentisme, pour éviter que on se positionne d'une manière, je dirais, conflictuelle. C'est plus facile de niveler en disant, par exemple, que tous les courants religieux ou tous les courants à orientation spirituelle se valent. Vous voyez, c'est une façon d'éliminer les conflits. Donc c'est très politique, si vous voulez. Et puis vous avez d'autres courants, comme les soucis du monde, les richesses. C'est vrai que quelqu'un qui n'a plus comme orientation que de gagner plus, il en oublie même son âme, disait Jésus. Et puis, le mauvais exemple, hélas, des croyants, qui est une chose tout à fait contemporaine, et qu'on le focus actuellement des médias nous transperce, en quelque sorte, parce qu'on voit très bien que nous avons des croyants qui ne sont pas du tout cohérents. L'Église reste sainte, malgré tout, nous l'oublions jamais, même si il y a des croyants qui sont des pécheurs. L'Église a toujours prétendu accueillir en son sein et des justes et des pécheurs, en espérant que les pécheurs se convertissent et aillent de plus en plus vers la conversion la plus grande possible. Et puis, vous avez des courants de pensée hostiles à la religion, de fait, nous savons qu'il en existe beaucoup, et il y a même des conjurations, en quelque sorte, qui existent contre l'Église, parfois. Il y a vraiment une hostilité déclarée, on en réfléchit dans des lieux pour contredire ce que fait l'Église, en tout cas pour la contrecarrer. Et c'est vrai que les mauvais exemples des croyants, juste avant, donnent de l'eau au moulin à ces courants. Et puis, finalement, cette attitude de l'homme pécheur qui, de peur, se cache devant Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont une mauvaise conscience, disait le cardinal Giacomo Bifi, qui rencontrait souvent des femmes qui avaient commis un avortement, et qui disait leur refus de la religion, c'est dans le fond le refus de leur conscience. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a commis un acte dans lequel on sent bien qu'il y a quelque chose de pas clair, de pas et dans le fond un élan vers Dieu, et nous savons combien Jésus a toujours voulu, d'abord, avant de parler de vérité de religion, mettre au clair les personnes au niveau de leur vie intérieure. Regardez la Samaritaine. Qu'est-ce que fait Jésus d'abord avant de lui parler d'où vient le salut et comment obtenir cette source d'eau jaillissante en vie éternelle? Il commence par lui dire tu en es à ton sixième mari. Et donc il veut d'abord la mettre au clair au niveau moral. C'est seulement quand on est au clair en faisant la vérité qu'on peut dire la vérité et la recevoir d'une manière plus plénière.
C'est extrêmement intéressant et important de relire cette liste que tu viens de décliner, qui est au numéro 29 donc, du catéchisme. Et là, je note la première phrase qui est dite dans ce numéro 29, qui est une belle phrase tirée
Gaudium
et Spes.
De Vatican II. Oui.
C'est ça, du Concile Vatican II. Mais ce rapport intime et vital qui unit l'homme à Dieu peut être oublié. Rapport intime et vital qui unit l'homme à Dieu. C'est donc bien dire, si toutefois ça n'a pas été compris, que l'homme, il y a en l'homme, l'homme est créé par Dieu et il porte en lui la marque de cette relation de création de l'homme à Dieu. L'homme, d'une façon ou d'une autre, est capable de comprendre l'existence de Dieu, est capable d'entrer dans une relation de confiance à celui de qui il se reçoit. C'est bien de ça dont il s'agit. On l'a redit, il me semble, en commençant ici, mais ne pas perdre de vue que l'homme ne choisit pas de croire d'une certaine façon. En fait, il va s'engager dans la foi, mais il est précédé dans l'acte qu'il pose. Comme dit le catéchisme, l'homme est capable de Dieu, a le désir de Dieu,
capax dei. Oui, c'est une chose étonnante que Dieu ne se retire pas, que Dieu bien sûr laisse l'homme à son conseil dans notre liberté, parce que nous sommes créés à l'image et ressemblance de Dieu, comme nous disions l'autre fois, et à cause de cela, nous agissons librement, mais il y a une chose qui fait que Dieu nous accompagne instant après instant. Et c'est pour cela qu'on peut facilement le rencontrer, si vous voulez. C'est parce que Dieu produit, comme dit les actes des apôtres, c'est saint Paul qui parle, la vie, le mouvement et l'être. C'est-à-dire il est là dans notre essence, il est là dans nos actes, il est là dans toute notre vie, il nous est présent. C'est nous qui sommes absents de lui, absents à sa présence infinie qui est toujours autour de nous. Et dans l'Épître aux Philippiens, saint Paul disait, c'est une lettre la plus ancienne que nous ayons de lui, l'une des plus anciennes en tout cas, « Dieu est là qui opère en nous à la fois le vouloir et l'opération même ». Vous rendez compte, c'est-à-dire nous sommes complètement dépendant de Dieu d'une manière objective. C'est pas seulement la subjectivité, et qui dirait que dans notre intime, on peut faire tout à coup un espace intérieur, mais tout notre être est entièrement entre les mains de Dieu. C'est une découverte, évidemment, que nos contemporains ne font que très difficilement, dans la mesure où nous sommes dans une culture quasi athée et quasi agnostique pour d'autres pans de son environnement.
Mais la question qui me vient, en fait, qui est une question juste pratique, le souci que je peux porter de l'évangélisation, comme je pense tout chrétien, même si chacun ne l'envisage pas forcément de la même façon, ne va pas y entrer de la même façon, c'est beaucoup de gens que nous rencontrons qui ont envie d'être vraiment engagés, investis dans leur foi et de répondre à cet appel à la mission qu'ils ont reçue au baptême. Comment va-t-on réagir contre ceux qui sont révoltés contre le mal? La question de la souffrance, on ne sait pas forcément. Des gens attendent une réponse. La réponse, nous n'aurons pas le temps de le dire aujourd'hui. Mais en tout cas, je soulève juste que la question qui est ici, il va falloir témoigner de notre foi, dire que nous croyons en Dieu à des gens pour qui sont révoltés face au mal, qui sont très indifférents du point de vue de la religion, tout ce que tu as dit tout à l'heure, et qui sont pris dans les soucis du monde, très affairés à ne rien faire, d'une certaine façon, et qui sont aussi face aux mauvais exemples des croyants, les scandales qu'on peut voir, mais aussi, il n'y a pas besoin d'aller aux scandales terribles qu'on ne peut entendre parler, mais aussi être simplement... un rapport au monde, un rapport aux gens qui n'est pas juste à la création, etc.
Alors moi, je dirais qu'il ne faut pas se démobiliser parce que, bien sûr, on pourrait regarder tous ces événements et tout notre entourage comme des nuages noirs qui annoncent encore pire, comme un orage et qui ne reste qu'à se terrer chez soi et se mettre à l'abri. Non, je crois que nous faisons nous-mêmes l'expérience de Dieu. Et comme Jésus vis-à-vis de la Samaritaine, eh bien, il a le désir de la rejoindre, le désir qu'elle soit rejointe par cette source d'eau jaillissante. Ce n'est pas une volonté de conquête, c'est une volonté que voyant la pauvreté des autres, la soif des autres, et qu'on a quelque chose comme une source en nous, nous avons le grand désir de la donner. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, dit le psaume 105. Et c'est cette joie-là qui doit être présente dans nos rencontres, même si c'est vrai, nous devons reconnaître que c'est difficile, le mal, la souffrance et la mort.